je sais que si je fais des bons résultats au niveau international, ben ça peut changer la donne dans mon pays. Et encore une fois, quand je vais dans mon club et que je vois toutes ces petites filles qui me disent « Ah, mais je veux trop faire du ski freestyle », ben c'est pour ça que je le fais.
J'ai envie de militer avec toi maintenant tellement.
Ouais. Mais les gens à qui j'en parle, ils ont envie de militer avec moi après.
Bah ouais, mais parce que t'es tellement, en vrai, t'es tellement, même pas persuasif, parce qu'il y a même pas besoin de nous persuader, mais en tout cas, t'es convaincante, quoi.
Championne du monde
40-0.
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlète, journaliste, médecin ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Ça y est, on est passé à l'heure d'hiver. Il fait nuit à 14h30 et les températures commencent sérieusement à faire la tronche. En témoigne mon rhume et ma voix de canard que j'essaye de masquer avec beaucoup d'enthousiasme. Mais bon, personnellement, il y a une chose que j'adore à cette période, le retour des sports d'hiver. Le ski, le snow ou la luge pour les moins téméraires. Et encore plus cette année où se tiendront les Jeux Olympiques à Pékin à partir du 4 février. Et si les JO ne commencent que dans 3 mois, la saison régulière commence dès maintenant pour les athlètes, à l'image de notre invité du jour, Tess Ledeux, qui a entamé sa saison la semaine dernière par une victoire, s'il vous plaît. Tess a 19 ans et déjà presque 6 années à haut niveau derrière elle, en ski freestyle, dans les disciplines du slopestyle et du big air. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'au-delà d'être une passionnée absolue de son sport, c'est une jeune femme investie d'une mission, faire connaître son sport au plus grand nombre et encourager les filles à se lancer dans cette discipline qui, selon elle, est en train de mourir. Tess a toujours été la seule fille dans son groupe d'entraînement et voudrait que ça change, que l'image que les gens ont de son sport change et que sa discipline extraordinaire soit considérée à sa juste valeur. Tess, c'est également une force de caractère hors norme, une positivité et un sourire qui rayonnent dans sa voix, alors même qu'elle vient de passer l'année la plus dure de sa vie. Si vous ne la connaissez pas, écoutez cet épisode. Je peux vous jurer que vous aurez envie de regarder toutes les compétitions de ski freestyle instantanément et de devenir son plus fervent supporter ou supportrice lorsqu'elle s'élancera dans 3 mois à la conquête d'une médaille olympique. Salut Tess !
Salut !
Je suis super super contente qu'on puisse se parler aujourd'hui à distance. Malheureusement, on peut pas être ensemble. J'étais à Annecy, je crois, t'es chez toi là en ce moment.
Ouais, c'est ça. Je suis rentrée pour quelques jours. Ça fait du bien de se poser un peu avant la saison.
Ouais.
Coup,
c'est vrai que je suis super contente qu'on puisse se parler maintenant parce que tu viens de le dire, c'est le début de ta saison.
Ouais, c'est ça.
T'as eu ta première étape de Coupe du Monde là il y a quelques jours en Suisse.
Ouais, c'est ça, il y a 4 jours.
Ouais, donc que t'as gagné, donc félicitations.
Merci.
Donc je me dis voilà, je suis trop contente qu'on puisse t'avoir au début de la saison avant que ça devienne la folie pour toi et que t'aies aussi un petit peu moins de temps forcément dans ton emploi du temps.
Bah donc, moi aussi, ça me fait trop plaisir d'être avec vous, du coup.
Trop bien. Écoute, alors Tess, déjà, pour commencer, forcément, tout le monde ne te connaît peut-être pas. Donc, rapide présentation. Donc, tu t'appelles Tess Ledeux. J'ai pas donné ton nom de famille. Et t'es spécialisée dans 2 disciplines. Enfin, tu fais du ski freestyle.
Ouais.
Et t'es spécialisée dans 2 disciplines qui sont le slopestyle et le big air.
Oui, c'est ça.
Alors, pour les néophytes et les gens qui connaissent pas forcément trop les disciplines du freestyle, est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement, parce que voilà, c'est pas la substance du podcast, mais en tout cas, pour qu'au moins tout le monde soit au clair avec ce que tu fais comme sport.
Ouais. Alors, le slopestyle, c'est un peu comme un skatepark sur la neige. On a plein de modules sur la piste, environ 3 sauts et 3 rails, donc c'est des espèces de barres de fer, et on doit être le plus créatif, le plus stylé, le plus technique possible. Et le big air, c'est uniquement sur un seul saut. Donc pareil, on est jugé sur les mêmes critères, mais uniquement un saut, qui est généralement un peu plus gros.
C'est ça. Donc voilà, donc au moins on a un peu expliqué les choses et quelles sont tes disciplines. J'ai pas donné ton âge aussi, t'as 19 ans, tu vas avoir 20 ans le mois prochain, si je ne m'abuse.
Ouais, c'est ça.
Toi, t'as un parcours aussi qui est hyper intéressant, et je trouve que c'est pour ça que je suis trop contente qu'on puisse se parler, c'est que t'es vraiment une enfant de la balle, quoi. C'est-à-dire que t'es née à La Plagne.
Ouais.
T'as,
toujours été en contact avec la montagne, avec la neige. Et on t'a directement mis sur des skis dès que t'as su marcher, en fait, finalement.
Ouais, c'est ça. À un peu plus d'un an et demi, parce que du coup, je suis de novembre et mon hiver de mes un an, on m'a mis sur les skis. Et je sais pas, après, j'ai jamais arrêté, en fait. Ça a été un peu ma voie et le freestyle plus particulièrement, parce que j'ai d'abord passé toutes mes étoiles, suivi des cours de ski alpin, mais c'était un vrai calvaire pour moi, j'en pouvais plus, et j'avais qu'une seule envie, c'était d'aller au snowpark et d'aller faire des sauts, et j'en avais marre de faire de l'alpin, enfin c'était vraiment un calvaire, et tous les jours je demandais à ma coach au club, est-ce qu'on peut aller au snowpark aujourd'hui? Enfin, j'étais insupportable, et je pense que ouais, c'est du plus profond de moi, ma passion pour le ski.
Comment ça se fait que c'était un calvaire? Parce que j'imagine que tu devais aimer skier, mais le mot calvaire, c'est méga fort.
Ouais, mais parce qu'en fait, j'aime le ski en général. J'aime tous les aspects du ski, le ski freeride, le ski alpin, même si à l'époque, c'était dur pour moi. Mais parce que je savais que je voulais faire du freestyle. Et en fait, il fallait quand même atteindre un certain niveau en ski alpin et avoir une certaine maturité pour pouvoir aller sur les sauts. Parce que mine de rien, ça reste un sport extrême, un sport à risque. Et il faut avoir un certain âge et une certaine maturité pour pas faire n'importe quoi.
C'était le côté trop cadré qui te plaisait pas?
Alors, dans le ski alpin, oui. C'était le côté trop... Je sais pas. Et puis, c'était toujours la même chose. Il fallait toujours tourner autour de portes ou de piquets. Enfin, et en fait, je sais même pas ce qui me plaisait pas, mais je savais juste que mon truc, c'était le freestyle. Et il n'y avait pas d'autres questions, en fait.
C'est fou, ça.
Ouais. Et puis, dans le fin... Je disais que c'était un calvaire parce que j'attendais qu'une seule chose, c'est d'avoir l'âge pour pouvoir rentrer dans la section freestyle. Et pour moi, ça m'a paru une éternité, alors que c'était histoire d'un ou deux ans. Mais c'était très long parce que je savais que j'étais pas à ma place, en fait, dans le groupe alpin.
Mais ce qui t'a donné envie, parce que tu dis aussi petite, c'est quand même fou, c'est que tu voyais d'autres personnes faire du freestyle, c'est ça qui t'a donné envie ou c'est vraiment un truc, tout de suite, t'as su que toi, tu voulais faire des sauts, que tu voulais...
j'ai du mal à répondre à cette question. Je pense que d'un côté, ma famille est assez rock, assez freestyle. Mon cousin a fait du halfpipe, donc du ski freestyle en haut niveau et médaillé olympique, etc.
Kevin Roland, je précise.
Oui,
du coup.
Kevin Roland. Ma sœur était au club freestyle à l'époque, quand j'étais petite. Mais en fait, à l'âge de 3-4 ans, donc je savais même pas que Kevin allait être champion du monde ou était champion du monde. Enfin, j'avais pas conscience de ça. Et ma sœur faisait toujours pas du freestyle, mais j'étais déjà en train de construire des sauts dans mon jardin et j'essayais de les prendre avec ma luge. J'avais déjà vraiment le goût des sports un peu extrêmes et de l'adrénaline, etc. Parce que même l'été, quand je faisais du vélo, j'essayais de descendre les marches en vélo alors que je savais à peine faire du vélo. J'étais très casse-cou, quoi. Et c'est pour ça que je pense que c'est les deux. Ma famille m'a montré un peu la voie du freestyle et m'a montré que c'était possible, mais j'ai toujours eu un peu ce grain du goût du risque, quoi. Ce grain de folie.
Ouais, c'est fou parce que finalement t'as toujours su et du coup ta carrière, on peut parler de carrière, même si t'as à peine 20 ans, t'as déjà une belle carrière derrière toi. Elle a été très 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 vite. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de toi, on voit toujours le mot précoce. Voilà, ce que dès t'as commencé finalement à gagner tes premières médailles. T'avais quoi, 15 ans, 14-15 ans finalement?
Ouais, alors je suis rentrée en équipe de France à 14 ans. Et en fait, en ski, on peut commencer les Coupes du Monde à partir de 15 ans. Et je sais pas comment ça s'est passé, je sais pas. Je pense que j'avais une bonne étoile ce jour-là et j'ai réussi à gagner ma toute première étape de Coupe du Monde. Et du coup, j'avais à peine 15 ans.
Et c'est dingue.
Et ouais. Et après, tout a un peu enchaîné avec des hauts et des bas forcément, mais c'était assez dingue. Et depuis que je suis toute petite, je savais que je voulais faire ça de ma vie et que je voulais faire une carrière là-dedans, mais. À 15 ans, quand tout a commencé, l'arrivée des premiers sponsors, des premiers résultats, etc., je me suis dit, là, c'est plus juste une envie. Là, je suis dedans et maintenant, le plus dur, ça va être de rester à ce niveau-là. Parce que d'y arriver, c'est fait. Mais comment je vais faire, vu que j'ai que 15 ans, pour y rester pendant 10 ans à ce niveau-là? Et c'est là où la pression a commencé à arriver, etc.
Ouais, et justement, tu vois, c'est ma première question, parce que je trouve ça toujours fascinant, moi, quand t'as des personnes qui performent si tôt dans leur discipline, parce que en fait, tu as un spotlight qui est mis sur toi tout de suite. Et c'est vrai qu'en France, en plus, on aime bien ce genre d'histoire, enfin partout dans le monde, mais en France particulièrement, sur les jeunes prodiges qui sont l'avenir du sport français, etc. Toi, ça a été le cas, c'est-à-dire qu'à 14 ans déjà, tu avais ton reportage sur Riding Zone, on parlait de toi, enfin tu vois, c'est alors qu'à 14 ans, tu étais encore presque un bébé, tu avais déjà vachement de lumière sur toi. Comment, avec le recul maintenant, les 5-6 ans qui sont passés, comment on vit finalement autant d'attention si jeune?
Bah, alors déjà, malheureusement, je fais une discipline qui est pas trop connue aux yeux du grand public, etc. Ouais. Donc je pense que ça m'a quand même protégée parce que, mine de rien, tout ce qui sortait, ça restait quand même dans mon petit milieu. Et du coup, j'ai pas ressenti ça trop intensément. Mais je pense que le plus dur, c'est que tout est arrivé en même temps, en fait. Je suis rentrée en équipe de France, j'ai eu mes premiers sponsors, j'ai gagné mes premières compétitions internationales en l'espace de 6 mois. Et donc, je me suis retrouvée un peu dans un jus avec énormément de pression parce que je me suis dit, OK, maintenant, bah, y a des attentes, etc. Et comment je vais faire justement pour rester à ce niveau-là. Enfin, en fait, j'avais une énorme crainte, c'est que ma carrière, enfin, du coup, qui n'était pas une carrière, dure que 1 an.
Ouais.
Enfin, en gros, je fasse des résultats pendant 1 an et puis après, c'est bon, j'y arrive plus, c'est fini. Et c'était ma plus grosse crainte et ça a été compliqué à gérer. Mais je pense qu'encore une fois, j'étais tellement passionnée par le ski et par l'envie d'être la meilleure et de m'entraîner que je l'ai vite, je sais pas, j'ai vite appris à vivre avec, en fait.
Finalement, la plus grosse pression, c'était pas les autres qui te la mettaient, c'était toi-même.
Ah bah oui, mais je pense que c'est pour tous les sportifs, c'est ça. Enfin, je pense qu'à partir du moment où on fait du sport de haut niveau, c'est qu'on a envie d'être l'un des meilleurs du monde. Et du coup, on a un niveau d'exigence qui est très élevé. Et moi, je me voyais pas gagner 2 compètes et que ce soit terminé. Enfin, et du coup, je me suis mis une énorme pression parce que encore une fois, je voulais que ma vie, elle se fasse là-dedans et je voulais réussir et j'avais peur que ce soit une étoile filante, quoi.
Tu disais un truc aussi tout à l'heure, parce que c'est vrai que forcément, là, on parlait de tes disciplines, donc le ski freestyle, le slopestyle, tu vois, même moi, j'écorche, le big air, effectivement, c'est des mots qui peuvent être un peu barbares pour les gens qui connaissent pas. C'est des disciplines qui sont aux Jeux Olympiques, mais qui ont pas non plus énormément de visibilité encore à l'heure actuelle. Moi, j'ai cru comprendre que tu t'entraînais pratiquement pas en France depuis quelques années pour une raison qui est le manque de structure, d'équipement, etc. Est-ce que selon toi, bah, du coup, ce manque d'équipement qu'il y a en France explique aussi un peu le manque de reconnaissance qu'il y a dans notre pays de ta discipline?
Alors, je pense que c'est un tout. Je pense que, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, en fait, en France. Parce que, bon, déjà, au JO, en 2014 et en 2018, le halfpipe et le slopestyle, ça a été les disciplines les plus regardées au JO.
Ouais.
Avec le plus d'audience. Donc déjà, je pense que le problème, c'est pas que les gens ne s'y intéressent pas. Parce qu'à chaque fois que t'en parles aux gens, etc., j'ai l'impression qu'ils sont très intéressés et qu'ils ont envie d'en savoir plus justement parce que c'est trop peu connu et ils trouvent ça beau comme sport. C'est vrai que c'est un sport visuel, etc. Ouais. Et du coup, je pense que le problème vient pas du public. Mais je pense que en France, déjà, on a un problème de la culture des sports extrêmes. En fait, on a aucune culture des sports extrêmes.
Ouais.
Et que ce soit dans les sports d'été, moto, etc., BMX ou dans les sports d'hiver comme le ski freestyle en général, il y a un manque de reconnaissance énorme envers ces disciplines qu'on retrouve moins dans les pays comme les États-Unis, le Canada ou même je sais qu'en Suisse le ski freestyle a une place très importante et je pense que dans les médias, dans même la Fédération française de ski, enfin les fédérations en général, elles ont un manque de reconnaissance envers ces disciplines. Elle pense que ça intéresse pas les gens et que c'est pas nécessaire de promouvoir ces disciplines et de les mettre en avant, etc. Alors qu'au contraire, le peu de fois où elles sont mises en avant, ça cartonne.
Bien sûr.
Donc, du coup, les vu que c'est pas relayé par les médias, les fédérations investissent pas d'argent dedans parce qu'il y a pas de visibilité. Et du coup, le sport est de moins en moins connu et du coup les stations ne veulent plus investir dans des snowparks parce que le sport est pas assez connu et que pour construire des structures comme ça, c'est quand même un certain coût. Et du coup, il y a plus d'enfants qui ont accès à des snowparks et du coup, il y a de moins en moins de licenciés et du coup, ben, la fédération veut encore moins investir et voilà.
Mais comment tu l'expliques ça? Moi, je trouve ça hallucinant parce que je trouve que justement, sur les dernières années, il y a des vrais ambassadeurs, dont toi, tu vois, c'est vrai que j'avais parlé avec Marion Aherty, même dans d'autres disciplines, Nouria Newman, ouais. Toutes ces disciplines dites extrêmes dont tu parles, qui sont en l'occurrence pas des disciplines qui sont aux Jeux Olympiques en plus, où il y a des vrais ambassadeurs, où on en parle, où il y a un vrai intérêt. Quand tu regardes sur les réseaux sociaux, les vidéos, ça cartonne, elles sont regardées des millions de fois. Du coup, comment t'expliques que bah, les fédérations, et particulièrement en France, bah, ils se disent pas, bah mince, il y a une opportunité en fait, même finalement.
Bah parce que je pense que c'est dans la culture aujourd'hui. Et je pense que les mentalités, elles ont du mal à évoluer. Et ouais, je pense que le problème, il vient de là. Et parce que le problème, il est pas dans tous les pays. Et notre sport, il est loin de désintéresser les gens. Donc voilà. Moi, je sais que c'est un gros combat, en tout cas, dans ma carrière. Et que j'ai envie de mettre ce sport dans la lumière et je sais que si j'arrive à la fin de ma carrière et si enfin peut-être en ayant gagné toutes les compétitions mais si j'ai pas réussi à promouvoir un peu plus le ski freestyle, ça sera un énorme échec. Je sais que pour moi ça me tient à cœur autant que les résultats. Parce ouais. que je trouve que ça vaut le détour.
Mais complètement. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, ça me fait aussi rebondir sur un autre sujet parce que tu disais dans plusieurs interviews, toi, tu t'es toujours entraînée avec des garçons. Depuis que t'es petite, t'as toujours été dans des groupes d'entraînement avec quasiment 100% et toi en fille. Est-ce que tu penses que c'est en partie dû au fait que le freestyle, bah, ça a cette image de danger et donc par extension, finalement, on considère ça comme une discipline peu appropriée aux filles dans nos représentations de genre, tu vois.
Oui, mais j'en suis convaincue. Toutes les fins de saison, dans mon club, à La Plagne, on fait une fête du club. Donc, il y a tous les licenciés, il y a environ 300 personnes. Et il y a toujours plein de petites filles qui viennent me voir et qui me disent « Ah, mais moi, j'aimerais trop faire du ski freestyle, mais mes parents, ils veulent pas parce qu'ils trouvent que c'est trop dangereux. »
Ouais.
Et j'ai même des parents qui sont venus me voir et qui m'ont dit oui, notre petite fille, elle veut faire du freestyle, mais c'est impressionnant, ça fait peur, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et en plus, généralement, ces enfants-là ont grandi à la montagne, font du ski alpin, etc. Mmh. Et vraiment, on n'a pas plus de blessures que dans d'autres disciplines de ski. Et du coup, c'est ce que je leur dis. Et je leur dis que tout est contrôlé, que les entraîneurs sont faits pour et que c'est comme si t'envoyais ton enfant faire de la gymnastique. Enfin, c'est pareil, c'est un sport acrobatique et voilà. Après, faut être conscient qu'il y a un risque de blessure, mais comme dans tous les sports, je pense. Et que ben si ta fille elle a envie de s'élancer dans un sport comme ça, ben c'est que elle a ça en elle et que enfin tu peux pas lui priver. Enfin, je sais pas. Moi, je sais que mes parents m'ont toujours accompagnée. Et ça m'a aidé énormément. Et j'ai envie de montrer à ces petites filles et même à ces parents-là que, ben voilà, on peut y arriver. Et on peut y arriver en étant féminine et en prenant soin de soi. Et voilà, enfin, ça a rien à voir.
Que toi, t'en as souffert d'être la seule fille dans ta discipline?
Ben, quand j'étais petite, j'étais très casse-cou. Et j'avais beaucoup, beaucoup de garçons copains, etc. Donc, ça me dérangeait pas trop. En ayant grandi un petit peu, c'est vrai que c'est plus compliqué quand t'arrives vers l'âge de 14-15 ans. Je suis rentrée dans un groupe où il y avait que des garçons qui avaient entre 22 et 30 ans. Donc j'ai senti un gap énorme et là ça a été un peu plus compliqué parce que ben moi j'étais en train de me découvrir en tant que femme, j'évoluais en tant que femme et j'avais l'impression que le niveau, enfin le milieu dans lequel j'évoluais me permettait pas de m'épanouir à 100%. Enfin, ouais. Je sais pas, il y avait un espèce de gap entre mon monde de ski où il y a que des garçons ou même parfois ils me traitaient comme des garçons, enfin comme un garçon. pendant les entraînements, etc. Et entre le fait de vouloir me développer en tant que femme et avoir des valeurs de femme, etc. Et ça a été compliqué. Mais encore une fois, je pense que ça a forgé mon caractère encore plus. Et ça m'a permis de me retrouver encore plus et de savoir encore plus qui je voulais être. Et aujourd'hui, je suis super fière de m'être entraînée avec tous ces garçons, même si bien sûr, j'aurais voulu qu'il y ait d'autres filles. mais ouais, je suis fière d'avoir évolué dans ce milieu-là et d'avoir gardé toutes mes valeurs.
Est-ce que c'est ce qui est compliqué aussi, c'est le fait de ne pas pouvoir finalement partager ça avec quelqu'un qui te ressemble, quoi, finalement une autre femme. Est-ce que d'ailleurs, dans ton encadrement, il y a des femmes aussi ou est-ce que c'est majoritairement des hommes?
Non, il n'y a que des hommes.
Il n'y a que des hommes.
Ouais. Kiné, coach, préparateur physique, technoski, c'est que des hommes. Que des hommes et parfois, il y a une fille qui vient sur les compétitions avec nous, donc ça doit être sur 3 compétitions dans l'hiver, donc ça fait pas beaucoup.
Ouais.
Mais par exemple, là, quand je suis partie, il y avait une fille avec moi et j'ai fait ma vraie pipelette, j'ai pas la soirée à parler, c'était trop bien. Et ça m'a changé et mon coach sait aussi que ça me fait énormément de bien de me retrouver avec des filles. Et de pouvoir partager aussi mon point de vue en tant que fille, parce que parfois on n'a pas les mêmes sentiments et les mêmes ressentis sur les compétitions, sur les modules, etc., que les garçons, et la même fatigue accumulée, etc., et ça fait du bien de pouvoir se confier à une fille qui a les mêmes, enfin, qui a des peurs qui ressemblent à celles que j'ai, enfin. Voilà, on a quand même pas la même manière d'appréhender les choses et du coup parfois ça fait du bien d'échanger avec quelqu'un qui peut te comprendre un peu plus.
Est-ce que tu as l'impression quand même que ton entourage, ton encadrement effectivement s'intéresse quand même à ces thématiques là et s'adapte d'une personne à l'autre en se disant là je vais parler à un mec qui a telle ou telle problématique mais à côté j'ai Tess qui est une fille qui peut-être à un moment donné aussi mais forcément même sur des questions physiologiques quoi qui à un moment donné va avoir ses règles peut-être en compétition. Est-ce que ça c'est des choses aussi qui sont maintenant considérées même dans des sports à majorité masculine?
Alors moi je pense que j'ai eu énormément de chance. Déjà, mon coach avait déjà coaché des filles avant moi. Donc, c'est sûr, pas beaucoup. Hein. Il a dû en coacher 5 dans toute sa carrière, mais sur 20 hommes. Mais il en a déjà eu. Et il a eu, pareil, des filles avec des sacrés caractères, etc. Et du coup, je pense qu'il a vite su s'adapter à ça. Et mon encadrement, mon préparateur physique est super à l'écoute de ça aussi. Et on a réussi à mettre tout ça en place et ils sont très attentifs à mon bien-être et à mes cycles. Ils sont au courant que je peux ne pas avoir les mêmes besoins que tous les garçons.
Ouais.
Mais ils le prennent en compte et du coup, c'est top. J'ai eu énormément de chance avec ça.
Ça, c'est quelque chose dont vous discutez aussi avec tes concurrentes / amies / je sais pas trop comment ça se passe, mais vous partagez vous aussi là-dessus sur votre vie, enfin en tant que sportive de haut niveau dans le ski freestyle, c'est des choses sur lesquelles vous échangez ou c'est compliqué?
Alors on en parle, mais c'est un petit peu compliqué parce que dans les autres pays, elles sont pas toutes seules.
D'accord.
Elles sont beaucoup moins nombreuses, mais elles sont 2, 3, enfin jusqu'à 5, quoi.
Ah ouais.
C'est rare d'avoir un pays où il y a qu'une seule fille. Donc, mais justement, souvent elles viennent me voir et elles sont au courant, moi, que je m'entraîne qu'avec des garçons.
Ouais.
Et elles viennent me voir et elles sont assez, elles me posent plein de questions, quoi. Comment ça se passe. Enfin, surtout quand j'avais 15 ans et que j'ai intégré ce groupe et que je savais pas trop où je mettais les pieds, tout le monde était super à l'écoute et c'était sympa.
Mais je trouve ça fou parce que tu dis quand même la France, on est quand même une nation de sports d'hiver, une nation de ski, enfin c'est dingue.
Ouais, c'est là où ça rejoint le problème de tout à l'heure. Il y a un énorme problème autour du ski freestyle en France, mais énorme. C'est en train de, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais c'est en train de couler, quoi.
Ah, vraiment à ce point, toi, tu là vraiment c'est ton constat
Moi quand j'ai commencé, il y avait des snowparks, on pouvait s'entraîner en France, on pouvait arriver à un certain niveau avec les snowparks qu'on avait en France. Aujourd'hui c'est plus possible. Aujourd'hui, les groupes, ils sont obligés de partir s'entraîner à l'étranger. Les groupes enfin, les clubs, les comités, etc. Le problème, c'est que c'est pas du tout les mêmes frais.
Ouais.
Et vu qu'il y a aucun soutien de la part de la fédération, les jeunes n'ont pas du tout l'argent pour faire ça. Et du coup, ils arrêtent à cause de ça. Et il n'y a pas de relève.
Parce que oui, j'imagine qu'en plus, quand tu commences, forcément, que tu n'es pas encore forcément suivi par des sponsors, etc. Bah, du coup, le faire aller à l'étranger, avoir des frais supplémentaires d'hébergement, de transport et tout, c'est pas possible en fait.
C'est ça, même nous, en équipe de France élite, on n'a aucun soutien financier. Et notre saison, on la paye de A à Z. Donc, ça fait des coûts énormes. Et les jeunes qui arrivent en espoir et qui ont les points et le niveau pour participer à leur première Coupe du Monde, ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir faire toute la tournée. Donc, ils sont obligés de sélectionner ce qu'ils veulent faire, etc. C'est très compliqué pour eux.
Ouais, et puis c'est pas propice du coup à la performance.
Voilà, c'est ça. Moi, je sais que j'ai eu énormément de chance de performer, entre guillemets, rapidement, ce qui m'a permis d'avoir des sponsors rapidement et de pouvoir financer ma saison sans l'aide de ma famille. Mais si ça avait duré plusieurs années comme ça, ben, j'aurais été incapable de financer une saison.
Est-ce que ça te met... je trouve ça fou, en fait, ce que...
1-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way. Because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Ce que tu dis, mais est-ce que toi, ça te met une sorte de pression supplémentaire aussi de te dire que bah, t'es la seule fille dans ta discipline, que du coup, t'es un peu la porte-parole de tout ça?
C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en plus d'être la seule fille, c'est un combat qui me tient à cœur, mais qui est ancré au plus profond de moi-même. J'ai envie de faire avancer ce sport en France, j'ai envie... Et je pense que c'est pas impossible. Je pense qu'il y a encore de l'espoir. Oui, c'est sûr qu'on prendra jamais la place d'une grosse discipline, mais il y a de l'espoir pour que notre sport soit un peu plus reconnu médiatiquement, dans les clubs, etc. Et du coup, oui, ça me rajoute une certaine pression parce que si j'y arrive pas, ça sera un énorme échec. Et aussi, je peux y arriver en faisant des résultats et en étant une des meilleures du monde. Et du coup, ça rajoute une pression supplémentaire à juste avoir envie de gagner des compétitions pour moi. Je sais que si je fais des bons résultats au niveau international, ben ça peut changer la donne dans mon pays. Et encore une fois, quand je vais dans mon club et que je vois toutes ces petites filles qui me disent « Ah, mais je veux trop faire du ski freestyle », ben c'est pour ça que je le fais. Enfin, j'ai vraiment envie qu'elles puissent... même si ça marche pas, ben au moins elles auront essayé, elles auront eu les structures pour.
Ouais, c'était une question que j'avais après, mais du coup... mais en fait, finalement, maintenant, tu veux faire des résultats même plus que pour toi. En fait, c'est pour toute ta discipline et pour toutes les futures générations qui pourraient se mettre au ski freestyle, finalement.
Ouais.
Presque.
Mais oui, c'est ça. Bon, c'est
en
d'abord
mission.
Pour moi. C'est d'abord pour moi, ouais. Pour ma famille, pour... Enfin, parce que ça me tient à cœur et parce que c'est toute ma vie, encore une fois. Mais c'est aussi pour ça et c'est... Ouais, c'est un petit combat personnel, en tout cas.
Bah, du coup, forcément, je ne peux pas ne pas en parler parce que ça arrive et que c'est la grande échéance de ta saison. Forcément. Ah bah, enfin... je pouvais pas ne pas le faire, ça aurait été abject.
Bah ouais.
Mais forcément, c'est les Jeux Olympiques d'hiver dans quelques mois. C'est pas tes premiers Jeux, parce que t'as déjà fait ceux de Pyeongchang il y a 4 ans,
ouais.
Où t'étais toute jeune, t'avais 16 ans, donc
ouais.
T'étais vraiment toute jeune. Mais déjà à l'époque, je me souviens, parce que j'avais lu des articles à l'époque où, comme tu performais déjà à l'âge de 16 ans, il y avait beaucoup de pression sur tes épaules et on voulait vraiment que tu performes. Finalement, je crois que sur ton deuxième run, t'as fait une chute, c'est ça ?
Ouais.
Qui a fait que tu as fini 15e, il me semble.
Ouais,
quelque chose comme ça. Bref, on s'en fiche. Ouais, ouais, c'est pas grave. On oublie. Hop. Du coup, là, c'était deuxième jeu. T'es plus âgé, t'as 20 ans. Comment toi, tu... Enfin, est-ce que t'es dans une autre... un autre état d'esprit déjà qu'il y a 4 ans et comment ça se passe dans ta tête, quoi ?
Ah bah, c'est compliqué dans ma tête. Non, je rigole. Non, en vrai, ça va. Ça va. C'est vrai qu'il y a 4 ans, ça a été très compliqué pour moi parce que, entre guillemets, j'avais jamais vécu d'échec. Tout se passait très bien. Comme je disais, mes premières Coupes du Monde, j'ai fait des résultats. J'ai gagné les championnats du monde la même année, un an avant les Jeux. Donc, je suis arrivée au jeu avec un énorme statut et ça m'a fait très, très peur. Et je savais pas du tout comment gérer ça. Et c'était seulement ma deuxième saison au niveau international. Et en soi, j'avais encore tout à prouver. Mais pour les gens, j'avais déjà prouvé. Et du coup, c'était très compliqué. Et je pense que je me suis un petit peu oubliée. Je suis partie de chez moi et je me suis dit... Enfin, je sais pas, j'étais... un peu sur un nuage, mais un mauvais nuage, parce que j'étais déconnectée.
Ouais.
J'étais déconnectée et du coup c'est vrai que j'ai très très mal vécu l'échec après. J'étais dégoûtée du ski. Enfin, je pense que on a déjà entendu cette histoire 1000 fois avec d'autres sportifs, mais voilà, plus envie de remonter sur les skis. Les premières compétitions étaient très dures. J'ai eu quelques départs avant de retrouver mon niveau et de remonter sur les podiums, donc ça m'a installé plein de doutes. Mais aujourd'hui, ben 4 ans après, ben j'ai traversé plein d'épreuves et j'ai refait plein de résultats. Et là, j'ai fait une préparation au top du top et je me sens à 100%. Après, voilà, j'essaie de pas y penser. Y a plein de compétitions avant, il y a plein de compétitions après. C'est sûr qu'il y a de belles choses à faire. Et encore une fois, c'est sûr que ça pourrait changer la donne dans ma discipline en France. Mais avant tout, je vais partir là-bas, poser mon run, faire ce que j'ai à faire. Et ben, si ça doit suivre, et ben ça suivra. Je suis un peu comme ça aujourd'hui. Je pense que tout ce qui s'est passé, c'est pas arrivé pour rien. Et je pense que ça m'a fait prendre 40 ans en 4 ans.
T'es sacrément vieille.
Non, mais, j'ai l'impression d'avoir grandi tellement. Ma vie, elle a changé dans tous les sens. Et voilà, j'essaie juste de me dire que s'il doit se passer quelque chose de beau, et ben ça sera
ça
super
passera.
Cool. Mais si ça ne marche pas, c'est que ça ne devait pas marcher et qu'il y aura encore une chance dans 4 ans et que ma carrière, elle pourra être belle autrement.
Ouais, bah, tu disais, c'est vrai que t'as eu, sur les dernières années, des moments pas faciles.
Mmh.
Blessure, déjà, il y a 2 ans. Enfin, il y a... Ouais. C'est ça. Grosse blessure au genou.
Mmh.
Bon, ça, c'est d'ordre physique, j'ai envie de dire. Ouais. Finalement, quand t'es athlète de haut niveau, tu sais, et tu le disais tout à l'heure, que tu vas avoir des blessures, que malheureusement, quasiment tous les sportifs y passent.
Ouais, puis après coup, c'était le bon moment.
Ah ouais?
Ouais, c'était le bon moment. Ben voilà, après les Jeux, c'est vrai que pendant quelques mois, j'ai pas trop skié, je me suis pas trop entraînée, etc. Puis ensuite, je suis re-rentrée à fond dans le ski. Pendant 2 ans, il y avait rien d'autre que ça. Et je me suis blessée. Et je pense que ça devait arriver pour me dire, oh là là, retombe pas dans tes travers, prends du temps pour toi. Prends du temps pour toi, ta famille. Pour ton bien-être mental et le ski, ça suivra. Mais en fait, j'avais tendance à skier et oublier tout ce qu'il y avait autour. Et la blessure, ça m'a remis un peu les pieds sur terre en me disant, oula, en fait, peut-être que je grille les étapes et que je ferme trop les yeux et il n'y a pas que le ski dans la vie. Et voilà, ça m'a calmé un peu, ça a fait une bonne pause.
Tu avais besoin de te recentrer sur les choses essentielles.
Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est mon médecin qui m'en a fait prendre conscience. Quand je suis rentrée, j'étais vraiment très très triste, enfin comme après toute blessure. Et il m'a dit, mais tu sais Tess, ça devait arriver. Je lui ai dit, mais non, ça devait pas arriver. Pourquoi? Mais si ça devait arriver. Enfin là, tout allait trop vite. Enfin tu pouvais pas courir comme ça après ton sport pendant 3 ans. Il fallait une pause et en fait à chaque fin de saison, je rattaquais tout de suite avec le lycée, le bac, etc. J'avais vraiment pas de pause. Et donc, ça a été un petit peu un moment pour me dire stop. Et c'est lui qui m'en a fait prendre conscience. Et c'est tombé à un très bon moment parce que ça arrivait plutôt en fin de saison. une année, enfin, sans championnat du monde, sans JO, les grosses compétitions étaient passées, donc c'était juste un petit moment pour moi, quoi. Après. Ouais.
C'est pareil, l'aspect mental, psychologique, je trouve ça fascinant, et particulièrement dans le sport de haut niveau, savoir comment on arrive à surmonter finalement toutes ces épreuves-là. Après, c'est vrai que bon, l'année dernière, tu as eu aussi forcément un moment pas facile avec un drame familial.
Ouais.
Ça, c'est encore... Là, c'est au-delà finalement de toutes les blessures physiques ou autres qui peuvent arriver dans la carrière d'une sportive. Comment on fait, comment t'as fait toi aussi pour te reconstruire, parce que j'imagine qu'il y a aussi une phase de reconstruction, t'es remontée sur les skis, je crois, deux mois après le décès de ton papa.
Ouais.
Comment t'as réussi à gérer tout ça, parce que je me dis waouh, ça doit être un tel raz-de-marée intérieur.
Mmh. Ouais, en fait, ça a été assez compliqué. Ça faisait 2 ans du coup que mon papa était malade, donc 2 ans que je jonglais entre le ski, les études, la famille, et que la famille prenait une place super importante et que je mettais un peu le ski entre parenthèses, même si bon, ça roulait, mais j'aurais pu me concentrer, enfin m'entraîner beaucoup plus, etc. Mais c'était pas du tout la priorité à ce moment-là.
Ouais.
Et donc j'ai un petit peu mis le ski de côté. Pas assez pour me rendre malheureuse et avoir ce besoin de skier, mais quand même suffisamment pour passer énormément de temps avec mes proches. Et c'est vrai que l'année dernière, 2 heures avant la finale d'une Coupe du Monde, j'ai ma famille qui m'appelle et qui me dit « Bon, bah là, ça va pas, enfin il faut rentrer, etc. » voilà. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit « Bon, bah, déjà, aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai fait ce choix-là. Encore une fois, parfois, je pense que justement, le sport de haut niveau, ça nous fait un peu se surpasser et surmonter des étapes que sans ça, on n'arriverait pas à surmonter. Et j'ai pris le départ de cette finale, alors que 2 heures avant, j'ai eu un coup de fil assez dramatique. Et je me suis dit, OK, bon, bah là, je veux rentrer chez moi avec cette victoire pour lui donner la dernière, quoi. Et j'ai réussi. Bon, j'ai pas gagné, mais j'ai fait 2e. Mais c'était tellement intense comme compétition et j'ai pu rentrer chez moi sereinement. Enfin, je me suis dit, OK, j'ai accompli ça et il va, enfin, pour moi, c'était un cadeau que je lui faisais.
Ouais.
Et donc, c'est vrai qu'après, j'ai pas skié pendant 2 mois au milieu de la saison, 1 mois et demi. J'ai même pas fait une marche, je suis pas allée courir une fois, j'ai vraiment fait 0 sport. Enfin, j'étais au plus bas mentalement, physiquement. Enfin, c'était vraiment très compliqué, et il y avait les championnats du monde. Donc, non, c'était 1 mois après que mon papa soit parti. Et donc, encore une fois, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je me sens prête? Je me sentais pas du tout capable d'affronter un stress de compétition, etc. Surtout que j'étais championne du monde en titre en big air et en slopestyle, donc ouais. Je me sentais pas d'y aller, et en plus d'avoir une pression de faire un résultat, etc. Mais voilà, ma famille m'a beaucoup parlé et du coup, je suis partie et je me suis dit, bon, ben, encore une fois, je pars pour lui enfin, voilà, je sais pas, ça m'a donné une force énorme. Et donc, toute la fin de saison, j'étais un peu comme ça. Donc, j'étais vraiment mal. Physiquement, ça allait pas du tout parce que mon corps, enfin, j'avais plus du tout la forme physique pour une saison. Mm. J'avais perdu tous mes muscles, j'avais des douleurs de dos pas possibles. Enfin, c'était compliqué mentalement, pareil, c'était vraiment compliqué. Mais je sais pas, dès que j'étais au départ des compétitions, j'ai trouvé une force, je sais pas d'où elle venait, mais je l'ai trouvée, et ça m'a permis de gagner les 2 dernières Coupes du Monde et du coup de remporter le globe à la fin de la saison. Et le globe de cristal. Et du coup, pareil, encore une fois, là, je me suis dit, bon, franchement, je dois avoir une bonne étoile, et maintenant, je sais d'où elle vient, cette étoile. Voilà, aujourd'hui, c'est sûr que ça n'a pas été facile, et que même pendant ces victoires, j'étais pas épanouie et j'en profitais pas à 100%. Et l'après-saison a été compliquée parce qu'il fallait quand même que je me remette de tout ça, mais il fallait que je me concentre parce que c'était une saison olympique qui arrivait. Et je pense qu'encore une fois, j'étais super bien entourée. J'ai eu un staff de dingue. J'ai eu ma famille qui m'ont toujours soutenue dans le ski, qui m'ont toujours dit qu'il fallait y aller. Et ouais, le ski, ça a été vraiment mon échappatoire et je me suis rendu compte que... Enfin, ça m'a donné la réponse à pourquoi, en fait, je faisais du ski. Et maintenant, quand je dis que c'est inné, ben, je sais. Enfin, il n'y a rien qui me fait me sentir mieux que ça dans ma vie. Et quand je suis sur les skis, sur la montagne, au milieu de la neige, etc., ben, voilà, je sais pourquoi je suis là. Et je sais que c'est ce qui me rend heureuse et voilà. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, ça m'a donné une force énorme pour la suite et je me sens affaiblie d'un côté, mais en fait, cette petite partie qui manque, ben, j'ai l'impression que ça me donne une force et une chose supplémentaire par rapport aux autres qui, j'espère, va m'accompagner encore plus loin, quoi.
Ouais, j'allais te demander justement si ça avait tous ces récents événements, t'avais changé ta vision finalement de ton sport. Et si ça avait finalement, si c'était même pas passé dans une autre dimension, quoi.
Ben si, carrément, parce que je l'expliquais, je me suis rendu compte vraiment que le ski c'était ce qui me faisait vivre. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a eu des moments super compliqués après les JO, etc., où j'ai été dégoûtée, où je me suis même demandé si je voulais continuer ou pas, ou enfin voilà, un peu j'étais dans l'adolescence aussi, et je savais pas si c'était vraiment ma voie, si je voulais vraiment consacrer ma vie à ça. Et en fait, après les étapes que j'ai traversées, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait aucune question à se poser. C'était ça et rien d'autre. Et la force que ça m'a donnée pour continuer d'avancer, il n'y a rien d'autre qui aurait pu me la donner que le ski. Et ouais, ça m'a fait vraiment changer ma vision des choses. Et maintenant, dès que je suis en compétition, etc., je me dis que j'ai une chance inouïe d'être là et que... Je me sens forte, en fait, sur les skis. J'ai l'impression que ça me donne de la puissance. Enfin, c'est bizarre, mais je suis assez timide dans la vie. Je suis assez renfermée. Mais par contre, sur les skis, j'ai l'impression que je me sens intouchable.
Ouais.
Et ça, je m'en suis rendu compte cet hiver, quoi. Et voilà. Je pense que ça m'a ouvert les yeux et je pense que je terminerai ma vie sur les skis, quoi.
Dans une petite charrette sur des skis. Ouais, en fait, ça t'a mis devant les yeux finalement une évidence qui avait toujours été là, mais que t'as compris finalement en fait dernièrement, quoi. C'est l'évidence du ski, c'est l'évidence voilà de c'est fait pour toi, c'est ce qui te rend heureuse. C'est vraiment c'est fou, c'est hyper fort quand t'en parles. Je trouve ça se ressent vachement, ça m'émeut un peu, mais non, je te jure, mais c'est vraiment, on sent que c'est vraiment un truc qui te fait profondément vibrer, quoi.
Ouais, c'est ça. Et c'est dingue quand t'es passé par des périodes de doute, mais je pense encore une fois, comme tous les sportifs, il y a forcément un moment où tu te demandes si t'as ta place, si ça vaut le coup de continuer parce que c'est quand même beaucoup de sacrifices, etc. Et moi, à partir de cet hiver, je me suis rendu compte que, ouais, sur les skis, c'était ma place. C'était vraiment ma place.
Du coup, j'ai même envie de te dire, je ne te le souhaite pas, bien évidemment, mais que peu importe les résultats, c'est, même si c'est finalement les résultats maintenant, les podiums et les médailles, c'est presque du bonus.
Ouais, après, alors. Je suis une passionnée de ski. Encore une fois, le ski, voilà, je veux finir ma vie sans mes skis. Enfin, je suis vraiment une passionnée, mais je suis aussi une passionnée de compétition.
Ouais.
Mais ça, c'est deux choses différentes. Parce que je pense que, bon, si j'avais grandi près de la mer, etc., j'aurais forcément fait de la compétition. Et pour moi, c'est deux choses différentes. Il y a vraiment la passion du ski. Et la passion de la compétition. Et moi, ben, j'ai de la chance d'arriver à combiner les deux et à faire de ma passion mon métier et mon sport.
Ouais.
Mais c'est sûr que si ça marche pas dans le ski, en compétition, j'aurai toujours le ski pour me réfugier.
Mm.
Mais y a pas d'option.
Les deux sont indissociables.
Ouais. Ouais, la compétition, c'est trop important et c'est sûr que ça fera un manque si ça se passe pas, si j'atteins pas mes objectifs, etc., ça sera compliqué. Après, c'est sûr que, comme tout le monde, je m'en relèverai et je trouverai autre chose, quoi.
On n'en est pas là encore, hein. Attention, hein, t'es... là, t'es là, quand même va, encore en plein dedans et bien dedans. Et donc, non, c'est clair. Mais d'ailleurs, j'avais cru comprendre que t'avais un peu de mal à te projeter. Et quand on te posait des questions sur tu te vois où dans tant d'années, machin, c'est des choses qui étaient hyper compliquées pour toi de répondre. C'est toujours le cas à l'heure actuelle?
Mais oui, mais même, je me demande comment des gens arrivent à répondre où ils se voient dans le je me dis c'est tellement loin. Enfin, c'est sûr que la vie arrive, enfin avance très vite, etc. Mais je me dis que pour moi la vie elle est faite d'opportunités et de destin un petit peu et qu'on peut pas savoir s'il faut dans 4 ans j'aurai une opportunité de dingue qui me fera prendre un chemin complètement différent de ce que j'avais imaginé et c'est pour ça que j'ai du mal à me projeter. Après c'est sûr que je sais dans quelle voie je veux aller, etc. Mais je vais vivre en fonction des opportunités et du destin, plutôt.
Ouais, c'est bien, t'as bien raison.
Ouais. Après, voilà, je pense que le destin, tu le crées aussi. Enfin, et tu crées les opportunités. Si t'es fermé, etc., si tu vas pas découvrir de nouvelles choses, ben, t'auras forcément pas d'opportunités. Mm. Mais si tu fais quelque chose qui te plaît dans ta vie, et je sais pas, je me dis que j'aurai forcément des belles opportunités qui s'offriront à moi et je continue mes études à côté, des études qui me plaisent et voilà, je vais voir où la vie me mène mais non, j'ai pas de d'objectifs précis, je me vois pas dans 10 ans dans un bureau avec une famille, etc. Je veux une famille. Je veux un métier, mais quoi? On verra.
De toute façon, pour le coup, moi, je suis persuadée quand on fait les choses avec passion et qu'on est profondément sincère dans ce qu'on fait. De toute façon, il n'y a que des choses positives qui en découlent. Ouais. Et on arrive toujours à un endroit où on se sent bien à un moment donné. Quoi.
Mmh, c'est sûr.
Encore l'idée, un peu l'idée de destin dont on parlait tout à l'heure. Je crois que tu es super, superstitieuse en plus, toi, non?
Ah, mais moi, je suis beaucoup... Moi, je réfléchis beaucoup. Je me pose 36 000 questions tout le temps. Voilà, je suis assez. Je sais pas.
Tu cherches du sens dans ce que tu fais?
Je cherche du sens à beaucoup de choses. Et quand les choses n'ont pas de sens, ça me questionne énormément.
Ouais.
Ouais.
T'as besoin de trouver une raison.
Ouais. Et parfois, la raison, c'est juste, c'est le destin. Mais il y a une raison. Les choses n'arrivent pas... Enfin, pour moi, les choses n'arrivent pas par hasard. Et encore une fois, si on a des opportunités de dingue, c'est qu'on a créé ces opportunités et c'est qu'on s'est donné la chance d'avoir ces opportunités-là. Et voilà. Je sais pas.
Ouais, écoute, moi je te souhaite que ton destin ce soit encore une très très belle et une très très longue carrière avec plein de médailles.
J'espère.
On arrive un peu sur la fin. Moi, comme on est dans une année olympique en sport d'hiver, j'avais une petite question un peu particulière que j'ai pas l'habitude de poser, mais du coup je vais te la poser. C'est si tu devais nous conseiller de suivre une autre sportive ou un autre sportif d'ailleurs pendant ces JO d'hiver, ce serait qui et pourquoi? Ça peut être dans d'autres disciplines, ça peut, voilà, hein, c'est pas forcément dans...
C'est dur comme question parce que...
Tu peux en dire plusieurs, allez, on a le droit de...
C'est dur comme question parce que le sport d'hiver, c'est un petit milieu et on se connaît tous. Mm. Et je souhaite tellement de bonheur à plein de sportifs.
Sans parler de préférence ou quoi que ce soit, mais peut-être du coup quelqu'un qui est moins connu, qui...
Alors je souhaiterais... de la réussite à Manon Petit Lenoir parce que une snowboardeuse, parce que elle a traversé tellement d'épreuves, enfin elle a eu des énormes blessures et c'est tellement une acharnée du travail que en tout cas elle mériterait que ça marche. Ouais,
très bien. Le message est passé, et surtout je dis ça aussi pour inviter les gens à vraiment regarder ces jeux. Et d'ailleurs, le sport d'hiver en général, et pas que pendant les Jeux d'ailleurs, hein, parce que c'est un peu le problème aussi de la majeure partie des sports, mais qu'il y a plein de personnalités extraordinaires, d'athlètes extraordinaires dans les sports d'hiver, et que c'est important de les suivre, de vous suivre, vous aussi, à titre personnel. Et voilà. Et c'est bon, c'est ça qui est bien aussi, c'est que les Jeux Olympiques d'hiver mettent en lumière des personnalités, des profils et des sports, mais que c'est important aussi de les suivre tout le temps, quoi.
Bah, c'est
toute
sûr.
L'année. Ouais. Et puis, et comme tu disais, moi, ça m'a vachement touché aussi ton discours de mettre en avant ta discipline et de montrer que, bah, toi, t'es à l'heure actuelle en France, t'es la seule à faire ça. Enfin, la seule. Pas la seule, mais en tout cas, une des seules à haut niveau, du moins.
Ouais.
Et qu'il faut qu'il y en ait derrière, il faut que ça continue. Et je trouve que c'est vraiment un message que t'as porté là dans cet épisode qui est hyper fort et j'espère que les gens entendront.
Ouais, moi aussi. Venez nombreux.
Oui, voilà, exactement. Et ma dernière question pour conclure cet épisode qu'on pose à tout le monde. Mais quelle est ta définition d'une championne?
J'ai quand même réfléchi à cette question. C'est quand même dur, même en ayant réfléchi. C'est une question très dure. Je pense qu'une championne, c'est une personne qui excelle dans son activité, peu importe ce que c'est. Que ce soit dans son travail, dans son sport, dans la musique, l'art, etc. Et qui excelle grâce à sa force, sa persévérance, sa motivation, voilà. Et sa beauté et plein de choses.
Oh bien. Parfait. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Tess, pour ce moment. On va te suivre parce que c'est le début de ta saison. Donc là, c'est pour ça, ça arrive tout pile bien. Je vais pouvoir encourager tout le monde à te suivre sur les réseaux sociaux ou peu importe. Voilà. Je crois qu'il y a des compétitions. Enfin, c'est diffusé quand même un petit peu. On peut le trouver.
Oui, c'est diffusé sur Eurosport.
Sur Eurosport en plus, merveilleux. Bon, ben voilà. Ouais. Donc, à te suivre et à suivre en général les sports d'hiver et toutes ces disciplines-là qui méritent vraiment beaucoup plus de visibilité et d'intérêt.
C'est sûr, ouais.
Et à te souhaiter plein de réussites sur cette saison et les futures, et puis des belles médailles, on va pas dire quel métal, mais sur ces Jeux Olympiques, parce que voilà,
merci. Ce serait merci beaucoup.
Merci à toi, merci pour ce moment et pour ton discours, et j'espère qu'il sera entendu. Voilà.
Merci.
Merci beaucoup Tess, à bientôt.
À bientôt.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.